Le journal à Diana Dacosta.
Bonjour, le gibier met la pression sur les forêts. Une bonne partie de la surface forestière du canton peine à se rajeunir à cause des dégâts provoqués par la faune sauvage. On en parle avec le chef de la division forestière du Jura bernois dans un instant. Les exportations horlogères suisses ont le sourire. En 2021, les livraisons ont atteint les 22,3 milliards de francs. C'est 30% de plus qu'en 2020, un niveau record, vous l'entendrez. Le HCB est dans le suspense total. Il est prévu que les hockeyeurs zélandais affrontent Langnau ce soir à la Tissot Arena. Problème, les Emmentalois peinent à être au complet, mais le match de ce soir n'est toujours pas annulé. Entre blessés et infectés au Covid-19, Langnau n'avait déjà pas pu jouer mardi contre Lausanne. La grisaille se lèvera d'ici l'après-midi, mais des poches de résistance ne seront pas exclues, annonce Météo News. Sinon, le reste de la journée sera bien ensoleillé. Demain, même tendance avec du brouillard le matin et du soleil en deuxième partie de journée. Idem à première vue pour ce week-end avec des températures un peu plus douces. Le gibier peut avoir un impact direct sur le rajeunissement des forêts. L'Office cantonal des forêts et des dangers naturels vient de publier une expertise basée sur l'année 2021. Il en ressort que la pression de la faune sauvage est considérée comme forte sur 12% de la surface forestière du canton, un chiffre en augmentation. Dans la région, c'est le haut du vallon de Saint-Imier qui est le plus touché, même si la situation est stable. Ronald Kello, chef de la division forestière du Jura bernois, nous explique ce qui est entrepris.
Alors nous sommes en relation étroite avec les gens de l'inspection de la chasse et les gardes-faunes régionaux. Et nous travaillons sur des différents types de mesures. Nous prévoyons des catalogues de mesures sylvicoles pour améliorer l'habitat pour la faune. Il y a aussi certaines mesures au niveau de la chasse. Par exemple, la chasse du jeudi a été introduite dans le haut du vallon de Saint-Imier pour donner la possibilité aux chasseurs d'exercer une pression supplémentaire pour réguler les ongulés, donc chevreuils principalement, voire le chamois. Et il y a aussi des mesures qui ont été prises pour régler la question des déplacements du tourisme hivernal dans la région Combes-Grès de Chasseral pour assurer une certaine tranquillité à la faune.
Notez que les zones les plus critiques dans le canton se concentrent sur l'est du territoire, notamment dans l'Emmental. La réalisation d'une installation de géothermie profonde à Haute-Sorne n'est pas abandonnée. Le gouvernement jurassien a décidé de revoir différentes bases du projet. Il a ainsi choisi de négocier une nouvelle convention avec le promoteur Géo Énergie Suisse SA au préalable à la reprise par étapes du projet pilote. Le document devra notamment viser l'optimalisation du cadre sécuritaire. Les exportations horlogères ont atteint un niveau record l'an dernier. Elles ont enregistré une hausse de plus de 31% sur un an pour se hisser à plus de 22 milliards de francs. Ce sont les chiffres publiés ce matin, des chiffres même meilleurs qu'avant la pandémie, les précisions de Nancy Chapuis.
Les exportations ont augmenté de 2,7% par rapport à 2019, année qui précède la pandémie, mais surtout de 0,2% par rapport à 2014, tout simplement le meilleur exercice enregistré jusqu'alors. Rien qu'au mois de décembre, les livraisons de l'industrie horlogère helvétique ont augmenté de plus de 11% par rapport au même mois une année avant. Tous les groupes de matières ont soutenu la performance mensuelle, une performance qui a été portée plus particulièrement par les montres en métaux précieux et en acier. Les volumes sont en revanche restés nettement inférieurs à ceux d'avant la crise sanitaire. Enfin, les montres de moins de 500 francs ont vu leur prix à l'exportation diminuer de l'ordre de 26%. Pour celles entre 500 et 3000 francs, la valeur a grimpé d'un peu plus de 6%. Et concernant les garde-temps excédant les 3000 francs, ils ont affiché la plus vive expansion avec une valeur qui a bondi de près de 15%.
Musique à la collégiale revient pour une deuxième saison. 14 concerts sont agendés cette année dans l'édifice historique de Saint-Imier. L'association qui porte le projet a présenté son programme ce matin. Elle l'a voulu riche et varié avec des styles mêlant musique de chambre, musique ancienne, jazz, improvisation et musique électronique. Un des temps forts sera justement le mini-festival La Collégiade qui sera composé de 3 concerts entre le 12 et le 15 mai. Le directeur artistique de Musique à la Collégiale nous le présente, Johan Treichel.
C'est un festival qui est consacré à la création contemporaine et plus spécifiquement à la musique électronique. Donc c'est un festival qui propose au public des œuvres nouvelles, composé spécialement pour ce festival. Ce sont trois concerts avec trois mondes électroniques très différents les uns des autres. Donc c'est ça le principe de ce mini-festival qui se tiendra au mois de mai.
La musique électronique dans une collégiale, c'est pas forcément courant ?
Non, effectivement, je dirais que ce n'est pas courant. En l'occurrence, l'acoustique de la collégiale de Saint-Imier s'y prête à merveille. C'est une acoustique qui est enveloppante, mais qui ne noie pas les sons. Et c'est vrai que de présenter de la musique électronique d'une façon générale dans une église, c'est quelque chose qui se fait très peu. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi, déjà dès la première saison. C'est justement de proposer un peu cette spécificité. Et ça, je crois que ça se fait pas dans beaucoup d'endroits, en effet. C'est une des démarches de base de toute la programmation de l'année, c'est que le public puisse venir à certains concerts en sachant ce qu'il va entendre et en se laissant bercer par des choses connues, mais qu'il y ait aussi toute une part de la programmation où le public vient sans savoir à quoi s'attendre, sans savoir ce qu'il va entendre. Et ça, c'est pour nous extrêmement important, c'est d'être dans cette démarche de découvrir et faire découvrir.
Des propos recueillis par Émilie Moumentaler, cette deuxième saison de musique à la collégiale se veut aussi variée quant aux instruments qui seront en scène. Au grand orgue et au piano viendront se joindre une flûte de pan, des instruments baroques, des cordes, des voix ainsi que des synthétiseurs. Programme complet en lien sur notre site internet. Est-ce à l'État de réguler l'alimentation de ses concitoyens, de définir les quantités de sucre, de sel ou d'alcool qui peuvent être absorbées ou de taxer les produits jugés malsains ? Le laboratoire d'idées libérales Avenir Suisse a investigué et répond clairement par la négative. Pour les bonnes raisons qu'il n'est pas judicieux de restreindre la liberté individuelle de se nourrir et parce qu'il est préférable de laisser l'industrie agroalimentaire et les grands distributeurs s'auto-réguler. N'est-ce pas contradictoire de laisser l'État gérer la santé et notamment les maladies générées par la malbouffe et l'empêcher de réguler l'alimentation ? Jérôme Cossandet, auteur de l'étude pour Avenir Suisse.
Effectivement, une partie des maladies non transmissibles comme le diabète, l'obésité, des maladies cardiaques sont en partie liées à une mauvaise alimentation. Maintenant, si on veut réduire ce risque lié à ces consommations, la question c'est comment on peut atteindre cet objectif de la façon la plus efficace, la plus rapide et la plus flexible aussi. Et nous sommes convaincus, après avoir mené diverses analyses, beaucoup d'entretiens, regardé ce que dit la littérature scientifique, qu'une approche qui met le privé au centre, où on laisse les producteurs, où on laisse les grands distributeurs eux-mêmes définir des ambitions et réaliser ces ambitions pour réduire le taux de sucre, le taux de graisse, le taux de sel dans leurs aliments, c'est la façon la plus efficace pour lutter contre ces maladies non transmissibles.
L'État doit-il laisser faire ? Doit-il au moins inciter ? On retrouve Jérôme Cossandet.
Chaque entreprise qui produit des aliments potentiellement malsains doit se poser la question vis-à-vis justement la demande de sa clientèle. Est-ce qu'elle veut aussi se profiler sur le marché comme l'entreprise qui prend les devants ? Au contraire, est-ce qu'elle recherche plutôt une solution de branche, que ce soit pour des labels, que ce soit pour des objectifs de réduction de sucre, de sel, de matières grasses ? L'État, à mon avis, pourrait à la limite être le facilitateur qui crée peut-être aussi des bases de comparaison, de mesures. Mais je pense que l'initiative doit vraiment venir des principaux concernés parce que c'est eux qui connaissent les réactions possibles de leur clientèle.
Des propos recueillis par Serge Hubin, l'étude d'Avenir Suisse tend à démontrer les effets pervers des taxes sur les boissons sucrées, par exemple. Elle met encore en évidence des incohérences. L'État soutient la production et la distribution de sucre, mais voudrait ensuite réduire sa consommation, par exemple. Les écoliers valaisans pourront faire tomber le masque dès lundi. La mesure entrera en vigueur une semaine plus tard pour les élèves du secondaire. Le chef du département valaisan de la formation l'a annoncé ce matin sur les ondes de la RTS. Christophe Darbelay, qui préside aussi la conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, a précisé que ces décisions résultaient de discussions avec les autres cantons. Il a ajouté que d'autres annonces étaient prévues ces prochains jours et qu'une bonne partie des petits romans seraient soumis aux mêmes conditions. La police ukrainienne a arrêté le soldat de la garde nationale responsable de 5 morts. Un peu plus tôt dans la journée, les autorités du pays annonçaient qu'un homme en service a commencé à tirer avec son arme dans une usine avant de s'enfuir. Il a fait 5 morts et 5 blessés. Le soldat vient d'être interpellé dans une région du centre de l'Ukraine.
Vous écoutez RJB, il est midi 25. Sport.
Le HCBN veut retrouver le chemin du succès. Il doit affronter Langnau ce soir à 19h45 à la Tissot Arena en National League de hockey sur glace. Après 3 défaites de rang après le temps réglementaire, l'occasion est belle de rebondir aujourd'hui face à l'avant-dernier du classement. Mais le match est en suspens. Les Emmentalois n'ont pas pu jouer mardi en raison de cas de Covid-19. Michel Léoni.
Langnau n'était pas en mesure mardi d'aligner 15 joueurs et un gardien pour défier Lausanne, soit le minimum requis. En plus des blessés, plusieurs cas de coronavirus ont été enregistrés dans le vestiaire bernois. D'après nos informations, des joueurs ont encore été testés ce matin et la tenue du match devrait être confirmée ou non dans les heures qui viennent. Si la rencontre devait avoir lieu, le HCB pourrait donc profiter d'une formation bernoise qui n'a pas préparé au mieux son déplacement à la Tissot Arena, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça n'arrange en rien les affaires d'une équipe qui est en pleine crise. Langnau vient de perdre 11 matchs consécutifs. Les Emmentalois y ont encaissé 49 buts, soit presque une moyenne de 4,5 buts par match.
La rencontre entre le HCBN et Langnau est donc prévue ce soir à 19h45 à la Tissot Arena. Si le match est maintenu, il sera à vivre en direct sur RJB à partir de 19h30. Une première finale pour Ashleigh Barty à l'Open d'Australie de tennis. L'Australienne a validé son ticket aujourd'hui en écrasant en demi-finale l'Américaine Madison Keys 6-1, 6-3. En finale, la numéro 1 mondiale défiera soit l'Américaine Danielle Collins, soit la Polonaise Iga Swiatek. Les deux femmes jouent leur demi-finale en ce moment. RJB, il est 12h27. Merci de votre écoute. Bon appétit si vous passez à table.